bistrot des ethnologues. Mardi 6 avril, le bistrot des ethnologues invitait Martin de la Sourdière, ethnologue chargé de recherche au CNRS et chercheur au centre Edgar Morin. Martin de la Sourdière est venu débattre autour de son ouvrage « Lignes secondaires » dont voici la conférence dans le cadre du bistrot des ethnologues.
Donc comme Laurent Sébastien vient de le dire, je vais parler ou partir de cet ouvrage, donc le « Lignes secondaires ». Mais il y a un écueil qui est le suivant, qui est très simple. Ce n'est pas si facile que ça de parler de soi, de quelque chose qu'on a fait. Parce que, à la fois, on a très envie, mais en même temps, on a peur de lasser les gens, ça n'a jamais allé, de toute façon, je voudrais mettre debout, mais je ne peux pas, donc voilà. Donc il y a côté narcisse, et donc je me suis dit, je vais vous l'éviter, parce que sinon, c'est, je suis le meilleur, voilà comment j'ai fait et tout, ça va vous barber, moi aussi, donc ce n'est pas la peine. Alors, deuxième solution, vous commencez à rire, merveilleux. La deuxième solution, c'était de vous faire un cours. Mais là, évidemment, Laurent Sébastien et Christian auraient évidemment hurlé en disant « Martin, pas question, ce n'est pas une enceinte universitaire, ni CNRS, ni je ne sais quoi, il ne s'agit pas de barber tout le monde, pas de barber, mais disons de faire quelque chose canonique, tout le monde en train de manger, boire un petit coup, tout ça, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Je sais, je vais avoir du mal, il faut que je sente un peu ce qui vous intéresse. Je vous propose ambiance. Pourquoi ambiance? Parce que dans mon parcours, Laurent Sébastien l'a un petit peu laissé entendre, j'ai une approche, on va y revenir avec la lettre E, donc patience, une approche sensible, on va dire, du culturel, du social, du local, de tout ce que vous voudrez, de la géographie, voilà. Et les lieux, on dit les lieux, l'espace, le paysage, le territoire. On oublie un détail, c'est que très souvent, quand je parle d'ambiance, je m'explique tout de suite, un lieu, c'est également des bruits, des sons, des odeurs, du tactile. Alors maintenant, comment en rendre compte? Est-ce que par la plume, on peut en rendre compte? Est-ce que c'est uniquement par le film ou par la photo, l'enregistrement? Je ne sais pas. Mais c'est une sorte d'infirmité occidentale, comme on le sait très bien d'ailleurs, où le paysage en particulier, mais les lieux c'est pareil, eh bien on les décrit, on les définit, on les catalogue, on les analyse toujours en termes visuels et non pas auditifs, etc. etc. La différence, par exemple, des courants en Chine et au Japon, mais en Chine en particulier, où les paysages étaient classés, non pas par rapport à des formes, mais également par rapport à des sons. Et donc, il y avait des catalogues de paysages, c'était pas uniquement la montagne, la forêt, la source et tout. Non, pas du tout. C'était la source, au soir tombant, avec une légère brise, parcourant vous caressant sur le bras, avec la cloche qui sonnait, etc. Donc, si vous voulez, c'est très occidental de ne voir les choses, les lieux en particulier, que d'une manière visuelle. B, allons-y. Alors, B, évidemment, je suis où es-tu? Bédarieux, très important, Bédarieux est fondamental, mais ça, vous allez le comprendre tout à l'heure à la lettre C. Mais pour l'instant, gardez en mémoire Bédarieux et surtout, bien entendu, sa gare. B, je propose, car j'aime bien les gens, j'aime bien faire la mémoire des gens qui nous ont précédés, B, je propose Blandas, du nom du Causse de Blandas, petit satellite du Causse de Larzac, ou alors le Larzac est satellite du Causse de Blandas, je sais qu'il y a une petite guerre, et si je parle du Causse de Blandas, c'est à cause de Adrienne Durantulou, décédée, ethnologue, qui connaissait son Causse de Blandas, sur le bout du doigt, alors lieu par lieu, touffe de genêt et touffe de buis par touffe de nuit, les cromlecs et les ruines et les ruisseaux et le calcaire, etc. Et donc elle avait une imprégnation, cette collègue, et donc c'est elle qui m'a en particulier fait comprendre le cause, l'ambiance pour le coup paysagère et locale du cause. Donc je suis heureux de faire mémoire de cette grande ethnologue, pas suffisamment reconnue à son époque, parce qu'elle n'était pas universitaire, etc. Quelqu'un d'assez extraordinaire que un certain nombre d'entre vous ont lu ou éventuellement rencontré. En B, je vous ai préparé autre chose. On passe à C, nous y voilà. Alors, avant le chemin de fer, juste quand même, parce que je ne peux pas m'empêcher, parce que c'est trop important, C, on est bien d'accord, nous sommes en C. Hein. Cairn, j'ai prononcé le mot Cairn. Je vois que vous êtes d'accord avec Cairn, c'est important. Elle est d'accord. Alors, pourquoi Cairn est important? Des livres ont été dédiés et écrits tout récemment, d'ailleurs, sur les cairns. Les philosophes s'en sont mêlés, les géographes beaucoup également. Pourquoi c'est important? Comme repère. Car l'une des manières de définir, alors là on est un petit peu universitaire, mais de définir les lieux, c'est qu'ils font centre, ils sont visibles, ils sont importants, c'est un cœur, c'est un centre de quelque chose. Et en montagne, et puis au Groenland aussi, dans les endroits où il n'y a pas d'autres repères, le cairn, c'est le lieu par excellence qui permet de vous repérer et donc qui vous permet d'échapper à la mort, tout simplement. Et en montagne, vous le savez très bien, on ne va pas broder, mais moi ça me fascine, les cairns me fascinent, entre autres parce qu'on les retrouve au Groenland, on les retrouve alors sous des noms différents, on les retrouve en Amérique du Sud, on les trouve au Tibet, comme nous le savons, dans les Alpes, dans les Pyrénées, etc. Donc c'est de manière plus triviale, parce qu'il y a des cairns qui sont plus, on va dire, culturellement chargés, en particulier au Groenland, où ils sont anthropomorphes, etc. Bon, c'est des silhouettes de personnages, mais en montagne, comme vous le savez, c'est quelque chose d'assez fort, de très très beau, parce que ça relie, voilà, un lieu qui est essentiel pour ne pas se perdre, pour ne pas perdre son itinéraire, notamment s'il y a de la brume, et non seulement, donc c'est un repère sur lequel on se précipite et qui est fondamental, un lieu central, justement, dans les tempêtes de neige et dans le brouillard, et en plus, ce qui est très très beau, c'est un lieu qui donne la main, où celui qui passe par ce cairn donne la main et pense à celui qui va venir après, parce que l'habitude, comme vous le savez, ceux qui ont plus ou moins randonné, quand on rencontre un cairn, petit ou grand, l'habitude, la tradition, on veut qu'on prenne soi-même un caillou et qu'on le pose. Donc en posant son propre caillou, eh bien, on pense à celui qui va venir, ça vous fait rire, qui va être perdu, et donc, et grâce à vous, ne sera pas perdu, si vous voulez. Donc, ce n'est pas un lieu investi de manière individuelle, mais c'est une main tendue vers les autres. Alors, je perds du temps avec le C, je ne sais pas pourquoi. Canigou, je n'ai pas le temps, mais Canigou, haut lieu, c'est un haut lieu, mais on va y revenir tout à l'heure. Sévenol, je reconnais que c'est un peu facile, parce qu'on n'est pas loin des Cévennes, je reconnais, ça fait un peu, le régional de l'étape, évidemment, mais je vous ai mis quelques noms, régionaux. Alors, pourquoi je dis Cévenol également? Donc, les Cévennes, c'est une région, c'est pas un lieu. Il se trouve, je lis très très rapidement, que les lieux, ils sont attractifs. On a vu que l'espace peut faire peur, mais heureusement qu'il y a des lieux, mais il y a certains lieux qui, eux-mêmes, font très peur. D'accord, font très très peur. Bon, il y a l'enfer, bien sûr, etc., mais les marécages, bon, etc., donc c'est important aussi, de même que le paysage. On dit, quand on parle de paysage, tout de suite, du beau paysage, plaisanterie, il y a des paysages terribles, terrifiants, et j'ai rencontré des gens enquêtant sur le paysage, donc ils détestaient le paysage en lui-même, à la limite, parce qu'ils trouvent que c'est trop grandiose, ça leur fout le cafard, c'est trop loin, c'est trop ceci, trop cela, ils préféraient justement les lieux. Alors si je parle de Cévenol et de lieux qui font peur, c'est que, bon, d'un mot, hein, je ne veux pas déflorer les choses, mais il y a 7-8 ans, j'ai loué une petite maison au pied de l'Aigoile, délicieuse, en été, je suis revenu en novembre, et j'ai eu tellement peur que pendant une semaine, je n'ai pas dormi une seconde pendant une semaine. Or, en été, cette maison était merveilleuse, je l'avais choisie, un petit vallon sous Gabriac, ceux qui connaissent, entre Gabriac et le col Salides, il faut être précis là aussi, là, je suis désolé, on bosse. Hein. Saint-André-de-Valbonne, vous prenez le col Salides, 1200, je vois que vous suivez à peu près, 1220 mètres, toute petite route très très étroite, marquée d'une manière très bizarre sur la carte d'état-major, vous redescendez, c'est sur la gauche, ma petite maison Terreur, c'est sur la gauche, et vous remontez Cabriac sur un petit plateau, et ensuite le Mont Aigoual, somptueux bien entendu, encore un haut lieu, donc les Cévennes peuvent faire très très peur. En C, je suis obligé, avant les chemins de fer, non, j'en ai trois autres, tant pis, alors, important, là c'est le petit couplet universitaire, Michel de Certeau, voilà, décédé, jésuite, philosophe, théologien, etc., qui, sur cette notion d'espace et de lieu, dans son ouvrage qui est à double entrée, si on peut dire, à la fois par rapport au lieu et par rapport au quotidien, l'invention du quotidien, tous nos collègues, bon, le site, a juste raison, a juste ce titre, c'est réédité, et Michel de Certeau explique vraiment comment les lieux sont vécus d'une manière quotidienne par les gens et non pas imposés par l'administration, par le ceci, l'imaginaire et tout, mais comment les gens se recréent finalement leur lieu, même par des cheminements urbains minuscules, etc. Ils ne sont pas contraints dans leurs usages de l'espace. Et c'est lui en particulier qui, alors là on a tout petit peu décalé des lieux, mais en fait on est pratiquement dedans, qui a, il n'est pas le seul, mais à proposer la notion de récit d'espace. C'est-à-dire qu'il dit que, finalement, l'espace se vivait, mais, ça se racontait, ça se partageait, ça s'analysait, si on est ethnologue ou sociologue ou je ne sais pas quoi, mais également qu'on peut y trouver, susciter les lieux où les espaces suscitent leur mise en récit. Et à la limite, dit-il, avec d'autres aussi, mais on va y revenir tout à l'heure, oui, d'ailleurs, on va y venir tout de suite, d'ailleurs, finalement, que il n'y a de véritablement au sens fort de lieu que lorsqu'il y a récit. Parole, bien sûr, mais souvent, il y a récit. aussi. Donc Michel de Certeau, vous avez entendu, avant le chemin de fer, donc c'est décidément, c'est terrible, hein, c'est bizarre. Vous allez voir, il y a des ça va pas du tout. Hein. Cloche, alors là, je vous la donne parce qu'elle est trop belle, à la limite, comment dire, tellement belle que je me demande même si je ne l'ai pas inventée. Mais certainement, je ne l'ai pas inventée, car un, je suis à peu près honnête, je pense. On va dire honnête, on va dire. Deux, si je l'ai retenu, c'est que je ne l'ai pas... Oui, donc je ne l'ai pas inventé. Proverbe québécois. Alors, il est peut-être canadien, mais québécois, canadien, c'est pareil. Enfin, je pense qu'il est en français. C'est très, très simple. Et à la limite, j'ai pratiquement plus rien à dire à partir du moment où je vous aurais prononcé, comment dire... Non, donc la parole tout de suite à Jocelyne. Non, sérieusement. Hein. Alors, écoutez bien. Proverbe québécois. J'ai bien dit québécois. Ce n'est pas le lieu qui fait la cloche. Il faut suivre, hein, parce que moi, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Ce n'est pas... Non, vous allez comprendre, je sens. Ce n'est pas le lieu qui fait la cloche, mais la cloche qui fait le lieu. Ça flotte ?
Ça flotte.
Elle dit ça flotte. Elle dit que ça flotte. Non, mais c'est hyper simple. Moi, je suis nul. Non, moi non plus, je ne comprends pas. L'idée, elle est très simple. C'est que lieu, société, espace, le social, l'humain, le culturel. On aurait envie de dire, spontanément d'ailleurs, à la limite, c'est presque mon testament, je veux dire, de ce que je suis en train de dire. On aurait tellement envie, mais moi le premier, le pire, mais moi le premier, évidemment, de surinvestir l'espace. C'est tellement agréable. Une colline, elle suscite quelque chose. Ben non, la colline, elle suscite rien du tout. Ou alors c'est du romantisme, ou alors c'est Maurice Barrès, ou alors c'est le génie du lieu. Le lieu, il n'existe, ou alors c'est de la pierre, ou alors c'est uniquement du concret, du matériel, et ça ne touche pas, ça n'a rien de culturel, c'est pas historique, c'est intéressant pour le géologue, mais socialement, culturellement, un lieu en tant que tel, même si une très belle forêt, une très belle, comment dire, une très belle roche, un très beau sommet, un très beau fleuve, tant que quelqu'un n'a pas mis des mots dessus, n'a pas raconté cette rivière, s'il n'y a pas eu d'événement tragique ou merveilleux sur ce lieu, sur cette forêt, dans cette rivière, etc., ben cette rivière, c'est une rivière, on peut l'analyser en termes de débit d'eau, etc., etc. Donc ce n'est pas le lieu qui suscite un récit, c'est un événement qui toujours informe. Et cela dit, en géographie, c'est presque pas une tautologie, je veux dire, mais c'est... Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que, attention, donc, je comptais vous mettre en garde tout de suite, à la fin, mais je vous mets en garde tout de suite, tant qu'à faire, je vous mets en garde tout de suite, parce que moi aussi, je me mets en garde. C'est-à-dire que finalement, attendez, comment on va dire ? C'est très simple. Oui, ben voilà, je viens de le dire, on a tendance à surestimer les lieux et à les créditer. Ah, c'est merveilleux, la montagne parle. La montagne, elle dit rien du tout, la montagne. Elle dit rien du tout, la montagne. La montagne, elle parle s'il y a eu des maquis monstrueux en 44. La montagne vous parle parce qu'il y a encore des restes de buis, il y a eu un monument commémoratif. Voilà un lieu qui existe culturellement, socialement. Mais s'il n'y a pas eu ces maquisards, bon, je comptais faire ça à la fin, mais tant pis, je le dis maintenant. Mais comment dire, sans les maquisards, pas de Montmouchet donc, ou de Vercors, d'une certaine manière. Sans les protestants, pas de Cévennes. Non plus, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Et également, là, évidemment, ça, bien entendu, mais et sans la bête du Gévaudan, pas de Gévaudan. Vous voyez ce que je veux dire maintenant ou pas? Ah ben c'est bon. Sans la bête, pas de Gévaudan. Il n'y aura pas eu la bête du Gévaudan. Le Gévaudan serait une province, comme tout le monde, le Perche, machin, la Lorraine, l'Alsace, tout roule. Enfin, roule, rien ne roule en Alsace, dans le Perche et compagnie. Mais là, quand même, ça ne roule pas tellement, ça n'a pas tellement roulé, parce que 80 enfants, comment dire, croqués par la bête du Gévaudan, voilà, et donc le Gévaudan n'existe que, voilà, l'idée c'est ça, donc la cloche qui fait le lieu, et la bête du Gévaudan qui fait le Gévaudan. Alors maintenant, chemin de fer, donc nous avons ici, alors non, rien du tout, alors pourquoi chemin de fer? Parce que le livre s'appelle « Ligne secondaire ». Voilà. Le livre n'est pas dédié uniquement au chemin de fer, mais il m'a semblé, et j'ai eu envie, de relier mes propres lieux dans ce livre. Voilà, tant pis, je parle un tout petit peu de moi. Mes propres lieux, les lieux, que je raconte, que j'essaye de raconter, de mettre en scène dans mon livre, ben, nécessairement, il faut y aller. On est d'accord, il faut bien y aller dans ces lieux. Alors, très souvent, c'est la neige. Pour moi, je suis un amoureux de la neige. J'ai très peur de la neige. Mais justement, comme j'ai très peur, j'y vais quand même dans la neige. Donc, chemin de neige, bien entendu. Et quel autre moyen, souvent, j'y allais en voiture, je reconnais, en auto, mais bon, bref. Et puis, bien entendu, surtout dans mes coins, comme assez perdus que les uns ou les autres connaissent, Cévennes, et puis surtout Margeride, Cantal, Lozère, Haute-Loire, etc., eh bien, les petites lignes de chemin de fer qui sont menacées. Comme vous le savez, il y a des grèves qui ont démarré il y a deux heures, entre autres, pour justement éviter ceci, la fermeture des petites lignes, périodiquement il y a des grèves et tout. Bon, ça c'est hors sujet, mais en même temps on est complètement dans le sujet, parce que qu'est-ce qu'une gare, si ce n'est un point, comment dire, focal, moins maintenant, mais jadis, n'en parlons pas avec les foires, les maquis, etc. Enfin, les maquis aussi pendant la guerre, rôle fondamental. occidentale, mais relativement récemment, les foires, les gares sont souvent un lieu de convivialité où il y a le dernier café qui subsiste, etc. Donc, surtout dans les régions un peu désertiques. Alors, je vais, avant de passer la parole donc, à la spécialiste du chemin de fer, je ne peux pas m'empêcher de vous lire la liste des gares qui viennent de Béziers. Vous préférez Clermont-Ferrand-Béziers ou Béziers-Clermont-Ferrand? Dans quel sens? Béziers-Clermont-Ferrand. Ah ben ça tombe bien, c'est comme ça, d'accord. Alors, attention, je prends ma respiration, et c'est pas inventif, c'est toutes les gares. Et vous pouvez encore vous y arrêter, mais pour combien de temps? Je ne sais pas. Béziers, Maglas, Bédarieux, le Bousquet d'Orbe, Lunas, les Cabrites, Celle, Merci. Oh, il y a des spécialistes. Montparon, Tournemire, Trait d'Union, Tournemire, Roquefort. Je connais bien la ligne. Saint-Rome de Cernan, bien connu. Saint-Georges de Luzançon, Cressel, Millau, Aguessac, Anguéresque, Château, Sévrac-le-Château, bien connu. Rodez. Non, ça passe pas à Rodez. Là, il y a un malaise. Non, mais ils se sont trompés. Jocelyne, il passe pas à Rodez. C'est impossible.
Pas celui-ci.
Il y a un embranchement. On prend notre train. Campagnac sur Saint-Genès, Banassac-Lacanourgue, Le Monastier, Chirac, Marvejol, Aumont-Aubrac, Saint-Chély, Saint-Flour, Saint-Flour, Chaudzaigne, Nostargues, Arvan, Issoire, Clermont-Ferrand. Alors, D, je vous ai préparé du D, on n'a pas trop le temps, je vais efficace. D, tant pis pour vous, tant pis pour moi aussi. E, je vous ai préparé deux mots, événement et ethnopoétique, parce que Laurent Sébastien en a parlé tout à l'heure. Si je parle d'événement, c'est un mot qui pour moi est très important par rapport au lieu toujours. Hein. Là, on reste toujours bien sûr sur cette problématique. Pourquoi? Parce que je parlais tout à l'heure de la cloche, donc ça va nous servir un peu de fil conducteur, si on peut dire. Et Jocelyne a eu l'habileté, en fait, du moins la présence d'esprit de prendre la cloche au bon, si on peut dire, au battant. Tu l'as saisi au battant, voilà, la cloche. Alors pourquoi événement? Parce qu'un lieu, bon, on l'a dit, mais on peut l'expliciter, on va le redire tout à l'heure avec G, mais bon, bref, c'est lié, un lieu est lié au temps, si je puis dire, au temps qui passe, à la durée, au temps tout court, au temps du MPS, voilà, qu'à l'espace. Même à la limite, le lieu, il est plus du côté du temps que du côté de l'espace. Le territoire, par contre, a plus à voir avec l'espace lui-même, l'espace vécu, quotidiennement, occupé, etc., mais en un temps donné. Alors qu'un lieu, ce qui fait qu'un endroit anonyme devient un lieu, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et alors, le paradoxe, c'est que il se passait quelque chose dans le long terme ou dans l'instantané, c'est pareil d'une certaine manière, c'est le temps qui s'inscrit dans un endroit, je fais exprès de pas dire lieu, dans un endroit très précis. Je veux dire par là que, on a parlé tout à l'heure des maquisards dans le Vercors par exemple, donc sans maquisards il n'y a pas de Vercors, donc là c'est le long terme parce que c'est déjà il y a 60 ans, mais de même, les feux de la Saint-Jean, s'il y a un lieu, moi c'est une image qui m'est venue comme ça en travaillant, mais c'est élémentaire, mais c'est très intéressant. Le feu de la Saint-Jean, c'est quoi? Et c'est encore plus ou moins quoi? C'est donc le 24 juin, les villageois qui fabriquent, souvent les jeunes, qui construisent un feu avec des fagots, des bûches, qui le préparent pendant un jour sur une colline qui domine le village, et pendant toute la nuit, le feu va brûler. Plus, il y avait des rites dans la France traditionnelle, etc. Il y a encore maintenant plus ou moins. Mais c'est passionnant parce que c'est uniquement le 24 juin, uniquement la nuit, et uniquement sur l'endroit qui a été décidé et choisi, pour le coup, par la communauté. C'est pas dans un fond de vallée, c'est pas dans une arrière-cour ou dans un champ plus ou moins en pente. En général, c'est sur un sommet ou sur une éminence, si vous voulez. Donc voilà un moment, voilà un événement qui crée le lieu. Alors il est parfaitement aléatoire, parfaitement labile, on va dire, donc il est fugitif, mais c'est au même titre, si on essaye de globaliser sur la notion même de lieu, ce qui le définit le plus, c'est vraiment l'inscription dans un espace, je vais exprès me répéter, dans un espace très précis, d'un événement dont on a gardé mémoire, ancien ou très ancien éventuellement, ou au contraire immédiat. Un accident, c'est pareil. Le lieu d'un accident, vous avez remarqué comme moi, que de plus en plus depuis 10 ans, le long des routes, qu'est-ce qu'on voit? On voit des couronnes, on voit des fleurs en plastique. Si ce n'est pas un lieu, c'est un lieu, donc il y a eu un événement individuel, précis, un moment précis, un lieu précis, donc on le commémore encore, et donc c'est fugitif, c'est labile, c'est aléatoire, mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont perdu la vie, et donc pour moi c'est vraiment, vraiment, vraiment un lieu. Donc il y a beaucoup de manières de gérer, si on peut dire, pour définir ce qu'est un lieu, de générer le pas de temps, comme on dit, si vous voulez. Alors, eux, ethnopoétiques, parce que Laurent Sébastien en a parlé, alors je le dis très rapidement, ethnopoétique, Christian, Laurent Sébastien et d'autres, bien entendu, vont me contredire, ou tout à l'heure, pas me contredire, enfin, on pourrait au contraire en discuter. Je propose, mais c'est nul, ça ne fait rien, il faut bien C'est que c'était un peu, bon, comme ça, hein, ethno-poétique, ethno-poétique. Bon, ça fait prétentieux, je suis d'accord avec toutes les critiques qu'on peut faire. Je n'emploie pas ce terme. Simplement, réfléchissons, on peut réfléchir autour. Alors, quand je dis ethno-poétique, ça peut s'adapter à d'autres, bien entendu, aspects du territoire, du social, du culturel. Là, en l'occurrence, par rapport au lieu, je me permets de dire que très modestement, j'ai fait un peu de ce que je pourrais dire si on me disait avec le couteau sous la gorge, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Est-ce que c'est de l'ethnologie? Pitié, pitié, de l'ethnopoétique. Bon, il faut bien dire quelque chose. Alors, si j'ai proposé, mais j'en fais pas du tout un concept, une notion, je sais, bon, gamberge, on s'en fiche de toute façon, c'est quand même de manière plus sérieuse, parce que tant pis, j'anticipe sur la lettre W. De toute façon, je sais qu'on n'aura pas le temps de. Donc, W, j'avais bien prévu en W celui-là, oui. Non, ou en cas, je ne sais plus, mais bon, bref, on s'en fiche. Un certain, alors là, bon, les autres veulent le connaître. Pour les lieux, personnage incontournable, Kenneth White. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est bon. Il n'est pas forcément très, très connu. En deux mots, Kenneth White, c'est un Écossais, W-H-I-T-E, qui a 75 ans, et qui, dans les années 80, il était de formation géographe, et il a constitué, créé un terme, une notion, un courant, la géopoétique. La géopoétique, et donc c'est pas une discipline reconnue universitairement, mais il avait comme une chaire à la Sorbonne dans ces années-là, c'est incroyable, de géopoétique, voilà. Il a fait les émules, notamment à Genève, des ethnologues, dont, ou des géographes, dont celui justement qui a fait un très très joli Alexandre Gillet, si ça vous intéresse, je vous donne la référence ensuite. Tout récemment, il a sorti un petit bouquin qui s'appelle « Autour du Cairn », un livre absolument somptueux d'un géographe. Autour du Cairn, donc c'est de la philosophie aussi, l'histoire de là, mais il, voilà. Géopoétique, en gros, c'est assez simple. Kenneth White, donc poète et philosophe et marcheur également, tout ça c'est important, on parlait des chemins de fer aussi, j'ai pas le temps non plus, les chemins, la marche, on disait tout à l'heure que les sens qui étaient mis en, ça vous fait rire, mais qui étaient mis en, évidemment, mais alors, d'un autre côté, l'ethnologue, bah, il commençait par son boulot de commencer les sens, les machins, sinon c'est du sensitif, c'est l'existentiel, où est la recherche là-dedans, on est d'accord, mais on peut, ça peut servir d'évocation, on peut le laisser entendre au moins, ou comment dire, en rendre compte, alors comment, d'où l'ethnopoétique éventuellement, alors géopoétique c'est très simple, très très simple, lui, Kenneth White et d'autres, dit, selon lui, que le lieu, un lieu, alors il parle de lieu, la citation je ne l'ai pas, mais peu importe, vous pouvez le trouver facilement sur Google ou autre, Kenneth White, un lieu, le lieu, ne peut se comprendre, ne peut s'analyser, n'existe à la limite que lorsqu'on en a une expérience sensible. Donc, hors de l'expérience sensible, point de salut. Il dit que sinon, ce n'est pas du lieu, à la limite. Un lieu, nécessairement, alors, il pousse le bouchon très très loin. Ça le regarde lui. Lui, il parle en poète. C'est toujours pareil. Il a l'idéologie de sa vision. Alors, il ne dit pas non plus que ceux qui parlent en historien d'un haut lieu, la cathédrale de Notre-Dame, de Verdun et compagnie, ce n'est pas du lieu. Il ne dit pas exactement ça. Si vous le mettez, il dit qu'au plus profond, pour vraiment comprendre un peu l'essence de ce qu'est un lieu, il faut l'éprouver littéralement, avoir l'expérience, l'éprouver, à l'apostrophe, entre autres, évidemment, par la marche. Il y a un très, très joli livre. Là aussi, la référence, je pourrais le donner plus tard. Très, très joli livre. Ça s'appelle Marche et paysage, où une dizaine d'auteurs ont marché plus ou moins ensemble, et ça, dont Kenneth White, dont sur les cairns, dont des écrivains aussi, d'ailleurs aussi, bref. Et donc, ils montrent dans leur, une série donc de témoignages, de chapitres, alors mi-géographique, mi-ethnologique, mi-philosophique, mi-poétique, et on montre, on voit vraiment en les lisant, pour le coup, que comment le lieu se construit, se fabrique, se sent, se perçoit, etc., à travers les sens, tout simplement. Alors bon, en même temps, il ne faut pas, comment dire, opposer les choses, c'est pas parce que on peut très bien être dans sa chambre et parler des lieux d'une manière divine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Kenneth White, il a tout faux aussi. Donc, il ne s'agit pas d'avoir l'idéologie de ça. Seulement, lui, c'est un peu son principe, un peu idéologue du lieu, finalement. Alors, F, je n'ai pas trouvé, donc à vous de jouer. Non, F, non, alors réfléchissez. F, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé, tu me dis qu'il y a plus de 10 minutes, Laurent Sébastien. J'ai deux petites choses à vous dire. Un, quand même. Julien Gracq, quand même, excusez du peu, Julien Gracq, donc je rappelle, enfin bon, géographe de formation, superbe écrivain, écrivain des confins, écrivain dans le rivage des cires, de lieux légendaires, de lieux aussi, plus que de paysages légendaires, et puis un livre extraordinaire, Carnet du Grand Chemin, qui est ce sont les balades de Julien Gracq sur 10 ans, alors beaucoup dans le Massif central, sur l'Aubrac, mais également en Alsace, etc. Donc une vision mi-géographique, mi-littéraire, vraiment, mais comment dire, les deux sont vraiment extraordinairement liés, avec une plume absolument superbe. Donc c'est un maître des lieux, Julien Gracq. Donc Carnet du Grand Chemin, si un jour ça vous inspire, vous avez envie de poursuivre, je vous dédie donc ce Julien Gracq. Bon, il y a une petite hésitation, mais j'ai pas trop le temps. J'y tiens énormément, parce que que là, on est limite région, on est en Ardèche, mais quand même pas très loin. C'est le Gerbier de Jonc, avec des tirets, avec un S à la fin, Gerbier de Jonc. Pourquoi Gerbier de Jonc? Voici un haut lieu. Ça fait rire Christian, évidemment. Il sait peut-être ce que je vais dire. Alors, c'est génial. Je m'excite déjà, mais non, mais le Gerbier de Jonc, c'est merveilleux, parce que voilà un haut lieu. Les gens y vont. 800 000 personnes. 800 000, c'est énorme. Pour un petit sommet d'Auvergne, vous voyez ce que je veux dire, enfin, d'Auvergne, qu'ai-je dit, du Velay, enfin, je ne sais plus, l'Ardèche, Christian, au secours, je ne sais plus, bon, enfin, bref, un sommet, malgré tout, pas très, très, bon, 800 000 personnes, c'est énorme. Pourquoi vont-ils au Gerbier de Jonc? Parce que, mais vous êtes peut-être trop jeune, quand on est, ben, allez-y, dites-le bien.
Parce que c'est la source de la
Voilà. Voilà, parce que c'est la source de la Loire. Et nous, on nous a bassinés avec... Moi, j'étais ravi, j'adorais la géographie. Les sources de la Loire, et puis le plateau de Langres pour la Seine, enfin, le Mont Blanc, 4800 mètres. Enfin, tout ça, moi, ça me ravissait. Mais ça, c'est spécial. Moi, je suis très géographe, voilà, tout ça. Donc, je me suis quand même, travaillant sur le paysage en Ardèche, je suis quand même allé voir le Gerbier de Jonc. J'ai enquêté réellement, comme un ethnologue, donc j'ai interrogé, pas beaucoup, mais enfin, quand même, une petite semaine, des gens qui randonnaient, qui s'arrêtaient. Je leur ai demandé pourquoi venez-vous, est-ce que vous avez été content et tout. Total, résultat des cours, je suis ravi. Tout le monde y va, tout le monde est totalement déçu. C'est merveilleux. Ça, c'est du bon pain. Alors ça, c'est du bon pain pour l'ethnologue. Parce que justement, voilà, pouf, une contradiction. Donc ne fais pas au lieu, tout au lieu. Il faut également que la mayonnaise prenne. Et pourquoi c'est décevant? Parce que, allez-y quand même. Je suis très méchant parce que les hôteliers du Gerbier de Jonc, ils vont me taper sur les doigts. Quoi, vous enlevez les clients? Non, allez-y. Moi, j'y suis allé d'ailleurs avant de faire mon enquête. Évidemment, le Gerbier de Jonc, ma carte de géographie, le Gerbier de Jonc, 1555 mètres, 52, 51, je ne sais plus, mais quelqu'un va me corriger. Bref, quand vous arrivez, circulez, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est un petit pain de sucre ridicule. Non, mais réellement, hein. Quelqu'un y est allé ou pas? Non. Un petit pain de sucre, oui, Christian, bien sûr. Un petit pain de sucre ridicule. Les sources elles-mêmes, vaguement, il y a une ferme. Véritable source de la Loire avec une flèche à moitié, comment dire, sur un panneau qui est à moitié bancal, vous rentrez dans une arrière-cour et vous voyez glou, 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 un petit robinet absolument stupide. Et en plus, on vous dit que les vraies sources, elles sont un peu partout, qu'on ne sait pas vraiment où elle est. Enfin bon, autant dire, remboursées. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? En plus, ils grelottent parce que c'est à 1500 mètres d'altitude, ils mangent une tarte aux myrtilles, un café, ils s'en vont, ils se promettent de ne plus jamais y aller. Mais ça continue, les gens continuent à être piégés parce qu'ils ne m'ont pas lu, ils sont pas gentils, ils auraient dû me lire. Mais c'est vrai, en plus, c'est vraiment vrai ce que je dis. Hein. Et vraiment, les gens se sont, ah bon, ce n'est que ça, mais c'est ridicule, on nous a roulé. Donc c'est amusant, c'est la notoriété. Donc là, le Gerbier de Jonc, je suis assez content de mon affaire avec le Gerbier de Jonc, enfin, voilà. Alors, H, alors là, évidemment, tu me dis qu'il n'y a plus que 10 minutes. Alors, H, c'est vraiment le gros morceau. Parce que, qu'est-ce que je vous ai préparé? Mais alors là, bon, c'est pas 30 secondes, parce qu'on vient de parler du Gerbier de Jonc. C'est, alors attention, je prends ma respiration, les hauts lieux. Les hauts lieux. Mais lieu lui-même, vous ne perdez rien pour attendre, on va bosser les lieux ensuite. Là, pour l'instant, c'est les hauts lieux, on est d'accord. Hein. Bon, maintenant, on y va un peu les hauts lieux, et ensuite les lieux. Mais j'aurais pu inverser. Mais comme je suis à H, forcément, c'est les hauts lieux. Alors, d'un mot. Alors, hauts lieux. Mot galvaudé. Pourquoi pas? On dit souvent en hauts lieux, machin. Pourquoi pas? Hein, pas puriste. C'est intéressant de savoir que le mot hauts lieux, pas galvaudé, mais sensulato, comme on dit, on le tire et il nous sert à penser, si vous voulez. Donc, c'est intéressant. Deuxième idée, la notion de haut lieu, de manière plus, on va dire, historique, pour simplifier, ethnologique si on veut, bien sûr, mais bon, bref, plutôt historique, voilà, haut lieu se réfère, les hauts lieux, jadis, c'est le religieux qui primait. Et ça, on l'oublie souvent. C'est pas du tout pour dire, pour prêcher, pour la religion, c'est elle qui a fait l'espace. Non, mais en même temps, en Europe occidentale, oui, quand même. Bon, n'est-ce pas, Christian, enfin, les oratoires, les machins, les trucs. On en pense ce qu'on veut, c'est pas le problème, il ne s'agit pas de prendre parti. Il n'empêche que les hauts lieux, d'ailleurs, dans d'autres religions, bien entendu, que la catholique ou la chrétienne, c'est la même chose, catholique, chrétienne, oui, enfin, on s'entend, bien sûr, eh bien, au départ, c'est un lieu de vénération, parce qu'une apparition, ou dans les premiers siècles de l'Église, pas tellement des apparitions, mais de vénération, ou de consécration, la mort du Christ, la mort de ceci, ou l'enterrement, beaucoup, c'est lié à la... etc. Donc, le haut lieu avait une signification religieuse. Ensuite, par extension, la notion de haut lieu englobe tous les lieux, tous les endroits, tous les lieux qui, alors là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui ont été finalement, d'un mot, mais c'est foisonnant, la notion même de haut lieu. Oui, je vais y venir tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'avais prévu là maintenant, peu importe, mais comment dire, un haut lieu, c'est un endroit qui a été consacré, au sens large, consacré et reconnu et ça se dit bien, le mot lui-même, la renommée, c'est la re-nommée. Donc nous voilà dans les récits, je vous regarde vous, mais parce que tout à l'heure vous flottiez un petit peu, mais nous voilà, non vous flottiez pas, vous ne flottiez plus d'ailleurs, mais comment nous voilà renommés, donc il y a la parole, il y a du récit, il y a de la parole, il y a de l'humain, mais plus que de l'humain, c'est vraiment du récit, si vous voulez. Donc les hauts lieux, bah, c'est effectivement Verdun, c'est le Vercors, c'est Notre-Dame, c'est le Mont-Saint-Michel, enfin bon, il y en a partout, le Canigou. Alors oui, les hauts lieux, ils peuvent être naturels et, le Canigou, mais quoique en général et très souvent, un haut lieu, alors là, je me contredis, mais comme par hasard, dans des lieux élevés, ça suscitait quand même, je reconnais, là, je me coupe l'herbe sous le pied, une installation humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Mettons le Canigou, j'y pense à cause du Canigou. J'ai envie de dire le Canigou, mais je connais un peu le Canigou. Canigou, bon, 2800 mètres d'altitude, c'est bien ça, hein, personne ne va me contredire. Non, 2800, je suis sûr de moi. 2800 mètres d'altitude, ou 1800, 2008. Le Ventoux 1900, 2008 le Canigou, donc assez élevé, et il y a des monastères, Saint-Martin du Canigou, etc. Donc il y a un peu une collusion. Et alors ça c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que très souvent, plus il y a une répétition d'événements sur un même endroit, plus, si vous voulez, le lieu prend, et le lieu devient fort, si vous voulez. Alors, je prends un exemple dans ma paroisse, si on peut dire, dans mon territoire de recherche, dans le Cantal, exactement, aux confins Cantal-Lozère, d'un mot rapidement, promis, je ne vais pas durer trop longtemps, le Mont Mouchet, 1495 mètres à peu près d'altitude. Il y a eu successivement, on en a parlé tout à l'heure, fin 18e, la bête du Gévaudan qui a donc croqué 82 bergers et bergères, surtout les bergères d'ailleurs, et c'est louche, ça on le sait, c'est très louche, voilà. Et 250 ans après, le 11 juin 44, les maquis, comme le Vercors, les maquis d'Auvergne, rien que ça, investissent, parce que justement c'était un endroit défensif, justement c'était un endroit impénétrable, avec des forêts énormes, donc sur le sommet de la Margerie, à 1500 mètres d'altitude ou quasiment, 3000 maquisards, excusez du peu, c'est quand même pas mal, 3000 maquisards, attaqués par les Allemands, les villages complètement détruits, enfin bon, ça c'est un autre problème, délogés, ils ont laissé sur le tapis 200 ou 300 morts, ils sont partis, ils sont réfugiés, ils ont été poursuivis par les Allemands et tout, tout ça pour dire, ce fameux Mont Mouchet, il est doublement consacré, si vous voulez, il y a une double histoire. Première idée. Deuxième idée par rapport au lieu. Et il y a des historiens, je me permets de le dire aussi, la référence que je pourrais vous donner, en particulier, dans une quinzaine d'années, André Micou, un collègue, sociologue, mais tout autant ethnologue, et puis qu'est-ce que ça veut dire que les différences, bref, a dirigé un numéro superbe qui s'appelle Des hauts lieux, la construction sociale de l'exemplarité, peu importe, où il a fait venir donc une dizaine de collègues, et avec des terrains ruraux, le plateau de mille vaches, les Cévennes, moi je prends pas de terrain, d'autres à Lyon, etc., des terrains urbains et ruraux, c'est de voir ce que c'est actuellement, comment sont investis, discutés, critiqués, etc., et puis même la notion même de haut lieu, un lieu qui... Voilà, ça c'est une chose. Alors toujours dans les hauts lieux, alors là c'est un tout petit scoop, mais mini scoop évidemment, mais alors moi j'ai inventé quelque chose, mais chute, premier chute, on est d'accord, mais chute. Alors, les hauts lieux, moi, bon, justement, j'étais narquois, vous avez bien compris, on est en plein dans le sujet, en fait. Vous avez bien compris que j'étais narquois sur le jardin de Jean, vous avez bien compris que j'étais narquois. Et absolument ravi que ça ne fonctionne pas. J'aime tellement quand les choses prévues, surtout quand on nous impose des trucs, ne fonctionnent pas. Là, je suis aux anges. À titre personnel, l'ethnologue est ravi aussi, mais j'en mets une couche parce que, bon, mais moi, ça me plaît. Alors, je veux dire par là que les hauts lieux, je veux bien, mais moi, ce n'est pas les hauts lieux qui m'intéressent, ou du moins, ce ne sont pas forcément les hauts lieux, reconnus, vénérés, avec procession, pèlerinage. C'est hyper important culturellement, c'est pas ça. Là encore, c'est pas l'idéologie. Je n'ai pas une idéologie de mes types de hauts lieux, mais c'est ceux qui moi, m'ont intéressé dans le livre et ailleurs. Bref, voilà. Alors, attention, donc chute, attention, mais là, quand même, je ne suis quand même pas seul, en plus, non, j'ai les billes, donc voilà, bref, d'accord. Alors, moi, je vous propose une réflexion sur les hauts lieux de proximité. Les hauts lieux de proximité. C'est hyper simple. C'est bête comme chou, c'est très simple. Les hauts lieux, en général, consécration, réputation, nationale, on est d'accord, voire internationale, m'intéresse, moi, et que fait-on? Et finalement, on n'a pas tellement écrit, les ethnologues, je les ai quand même bien lus sur ce territoire, enfin, sur cette notion de territoire, de paysage, et je ne suis pas le seul à les avoir lus, bien sûr. Eh bien, en fait, non, je vais donner un contre-exemple tout de suite, mais n'en font pas tellement état. M'intéresse, moi, comment un lieu fait, alors, ça a l'air subtil, pas subtil du tout, mais comment un lieu devient un haut lieu, non pas sur un plan national, mais sur un plan régional, voire local, voire très local. Et il me semble que sur un plan ethnologique, pour le coup au sens fort, ethnographique, Il ne s'agit pas d'opposer, encore une fois, mais il me semble, quand on réfléchit sur une région, et ça, à mon avis, cette notion même, j'en donnais deux exemples tout de suite, n'a pas été suffisamment pris en compte, parce que si vous voulez, pour dire les choses différemment, on oppose un peu trop rapidement, au lieu d'un côté, et puis, pour simplifier, terroir, d'accord ? Entre terroir, je crois qu'on peut être d'accord, Christian, force, et c'est pas qu'on oppose, mais on va de l'un peu de l'un à l'autre. On oublie qu'il y a des lieux qui font sens, d'une manière très forte, d'une manière consensuelle, collective, avec des récits. Mais ce sont des récits locaux, ce qu'on appelle des ethnotextes, à bas bruit, c'est dans les chaumières, c'est vaguement dans le journal local ou des érudits, ou alors les gens entre eux. Et quand vous déboulez dans la région en question, à la limite, vous mettez une semaine ou 15 jours à savoir qu'il y a dans le fin fond de la forêt un oratoire. Mais si vous creusez bien, souvent dans cet oratoire, eh bien les gens ils vont se marier assez régulièrement. Mais si vous ne faites que passer, un, vous ne verrez pas la fontaine miraculeuse, et deux, cet oratoire, et deux, vous ne saurez encore moins que les jeunes continuent encore maintenant, bravement, mais sans le dire. Sans le dire, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est plus, parce que c'est pas vraiment... Alors, je vais prendre deux exemples que je trouve, un exemple que je trouve amusant. Jean-Yves Durand, qui est un ami ethnologue que les uns ou les autres connaissent, avait une très jolie formule. Il travaillait sur les hauts lieux naturels, dans la Drôme. Et alors, à un moment, il avait repéré, puisque lui-même connaît bien la Drôme, il avait repéré qu'il y avait un lieu qu'on appelle les Trois Becs. Les Trois Becs, c'est une petite crête avec trois becs, j'ai peut-être vu tout à l'heure d'ailleurs du train, trois becs rocheux, si vous voulez, qui ne payent pas de mine. Celui qui passe en TGV, évidemment, s'il passe en ligne secondaire, bien il le verra, bien entendu, il verra que c'est un haut lieu local. Mais s'il passe, comme ça, 300 à l'heure, il ne verra même pas. Il ne verra pas. Or, pour les gens, quand on est avec eux, quand on vit avec eux, quand on analyse, on observe, on écoute leurs pratiques, leur représentation de leur territoire, de leur espace, ces trois becs qui sont pas dérisoires, mais qui sont mineurs, on va dire, ben pour eux, c'est leur Mont Blanc. Il le dit comme ça, Jean-Yves Durand, c'est leur Mont Blanc. Et c'est vrai, en fait, on se crée à chacun un haut lieu, mais même, même dans une plaine totale, aller dans le nord, le Mont Deca ou le Mont Cassel, 42 mètres d'altitude ou 87 mètres et demi d'altitude, ben pour eux, c'est monumental. Et c'est merveilleux, dire que chacun, on arrive finalement à avoir son lieu. Et alors, et Jean-Yves Durand a cette jolie formule en disant, on a le haut lieu qu'on peut, à chacun son haut lieu, on a le haut lieu qu'on peut, d'une certaine manière. Et donc, je pense que c'est très très fort. Bon, j'ai fini de m'exciter, vous avez bien compris que c'est une chose qui me tient extrêmement à cœur. J'ai complètement calé, mais je vous donne simplement le nom d'une commune avec qui j'ai eu une histoire, pas d'amour malheureusement, mais une histoire tout court, mais je n'ai pas le temps, donc ça peut être dans un autre monde que je vous le dirai, mais je crois qu'elle n'est même pas dans le bouquin d'ailleurs. C'est par rapport à la sonorité, c'est en Haute-Ardèche, à 1223 mètres ou 24 mètres, je ne sais plus d'altitude, un endroit perdu de chez perdu, pas loin du Gerbier de Jonc, et le nom de la commune, ça n'a rien de spécial, moi ça m'intéresse, mais bref, ça s'appelle Ils s'enlacent, et c'est tellement beau, moi je pleure à moitié. Ils s'enlacent, et c'est réel, ils s'enlacent, ils s'enlacent, bon, vous faites ce que vous voulez avec Ils s'enlacent. Il se trouve que j'ai quelque chose de... Bon, alors, je sèche complètement, je vous avais prévu le nom d'un poète, Philippe Jacoté, on n'a pas le temps, donc si quelqu'un a des billes pour J, d'accord, car je reconnais que j'ai failli coincer, Avalance, entre Valence et je ne sais pas où, et Nîmes, j'ai trouvé, non, c'est pas vrai, là, je triche, j'avais trouvé avant, mais bon, comme ça, je vous propose quand même un personnage aussi, mais c'est pas pour faire savant du tout, j'ai rien lu, n'importe, bref, Jack Kerouac, voilà, on the road, sur la route, voilà. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que voilà quelqu'un donc qui pendant 5 ans a fait plus qu'une fugue, avec deux copains, dans des vieilles voitures à moitié déglinguées, des vieilles Chevrolet, à moitié bourrées aussi, enfin peu importe, fumant, tout ce que vous voudrez, de long en large, l'Ouest américain, voilà. Et en fait, il n'arrête pas de décrire, l'Ouest américain. Mais en fait, quand vous regardez bien, il n'y a pas une description de, il n'y a pas un paysage, il n'y a que des lieux. Alors c'est intéressant aussi par rapport à la tension, au répondant entre lieu et espace. Alors l'espace emboîte, on va y venir si on a le temps, emboîte le lieu, mais c'est pas une question d'emboîtement, mais quand même. Mais en tout cas, lui, ce qu'il ressent, ce qu'il nous fait ressentir, il parle d'ailleurs du mot lui-même, lieu. Le lieu, c'est quoi? Effectivement, c'est une gare pourrie, entre guillemets, de chemin de fer, évidemment, dans le fin fond de l'Oklahoma, tout ce que vous voudrez. C'est un bar louche, évidemment, forcément louche, ben, évidemment, ils sont louches, etc., etc. Vous dites, une banlieue, évidemment, machin, etc. Enfin, évidemment que les trucs... Voilà, donc Kerouac, je vous donne... Alors évidemment, comme on n'a plus beaucoup de temps, rapide, elle, je ne sais plus bien ce que je... Oui, parce que, alors bon, j'avais prévu lieu, mais alors bon, ça commence au bout de trois quarts d'heure, évidemment. Non, mais bon, on est foutu. Non, alors, juste un tout petit mot, sérieux, peut-être sur lieu, peut-être, juste comme ça. Hein. Non, mais lieu, rappelons, donc c'est un mot latin, locus, parenthèse grecque, dont je rappelle topos, voilà. Et le lieu, étymologiquement, comment dire, c'était chez les Romains, chez les Latins, chez les Romains, c'était, alors là aussi, on touche l'une des définitions, des constellations pour définir le lieu. C'est quelque chose de très, on l'a dit un petit peu à fleur et moucheté pour l'instant, on a parlé de centre, d'endroit précis où il se passe quelque chose, etc. Et l'un des sens, en tout cas le sens originel, c'est locus, c'est l'endroit où on enterre, on enterrait les morts dans la grande banlieue de Rome. Donc le lieu, c'est le, comme dirait Michel de Certeau, c'est le lieu propre. Le lieu, c'est le lieu du propre, pas du propre et du sale, bien sûr, de soi-même, c'est le lieu de soi. C'est quelque chose qui est éventuellement collectif, on l'a vu avec les cairns, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais au tout début, si vous voulez, donc, il y a un côté centre, resserré, identitaire, par rapport à une personne précise. Alors, et juste pour information ensuite, bon, et ensuite, locus a donné loc et l'âne en breton, par exemple, donc loc et l'âne, qu'on retrouve aussi. J'ai oublié également de dire sur le mot cairn, parce qu'on parle d'étymologie, c'est à moi assez curieux, parce qu'on le retrouve en gaélique, en écossais, en, comment dire, également, zut, en, dans le Pays basque espagnol, etc. Enfin, non, pas dans les basques, mais plus dans, en Galice, etc. Et ça voudrait dire qu'un, ça voudrait dire caillou. Caillou. Alors, il y a beaucoup de variantes, etc. Mais c'est, on le retrouve très, très largement dans l'Ouest européen, voire éventuellement d'Europe centrale, c'est assez curieux. Alors, lieu, oui. Alors, quand même, oui, quand même, oui, quand même, forcément, vous n'allez pas échapper. Non, alors, juste, je cite également à L. Gilles Lapouge, qui est un écrivain drôle, subtil, qui a un rapport au lieu extrêmement fort, que je connais bien, il se trouve que je connais bien, qui a écrit l'an dernier, ceux qui ont des connivences avec la géographie, La légende de la géographie, où il regarde justement, il critique justement le rapport à l'espace des géographes qui sont trop ceci, trop cela, que les cartes mentent, etc. Enfin, il subvertit très largement, si vous voulez, avec humour, mais sans du tout, sans aucune démolition, si vous voulez. Il revisite les principes même de l'histoire, enfin surtout de la géographie, et justement de son rapport à comment il a défini le territoire, et il s'en moque, et il met des anecdotes vraies ou fausses, etc. Enfin, la légende de la géographie. Donc voilà pour Gilles Lapouge. Et a lieu, je n'ai pas pu m'empêcher, alors là c'était, comment dire, en attendant Jean-Pierre Destan tout à l'heure, qui a eu une demi-heure de retard à la gare de 7, donc c'est à cause de lui que je voulais vous fourguer, tant pis pour vous, je l'ai marqué, on en parlait un petit peu avec Christian tout à l'heure, attention, Carlos Castaneda, alors les plus jeunes ça vous dira peut-être rien, deux mots sur Carlos Castaneda, dans les années 70, un ethnologue américain, je le fais très rapidement, un ethnologue américain est parti au Mexique, très très vite, pour faire une thèse sur les chamans, sur le chamanisme, pour simplifier, hein, au Mexique, pour faire une thèse d'ethnologie. En fait, très très rapidement, pas en fait, très rapidement, il découvre un chaman qui s'appelle Don Juan, exactement, Don Juan, et il se fait initier par ce chaman, et finalement, la thèse d'ethnologie, on l'attend toujours, et que par contre, il s'est fait embobiner, il a écrit 5 livres, ou 6 ou 10, voire L'herbe du diable et la petite fumée, etc. Dans les années 70-80, ça avait fait Flores, tout le monde le lisait, etc. Et il se trouve que, je me suis rappelé, il est mort depuis, et je crois qu'il a été mort aussi pour l'ethnologie, je sais pas, mais enfin, il me semble, je crois qu'on ne l'a pas revu sur les bancs de Princeton, ou je ne sais pas quoi, je crois qu'il était perdu à tout jamais par le chaman. Alors, si je vous parle de ce chaman, c'est pas du tout pour vous fourguer Carlos Castaneda, mais c'est quand même tellement beau que donc je vous le propose dans L'herbe du diable, la petite fumée. Oui, c'est son premier. Au bout de la page 30, il raconte, et donc je l'ai relu tout récemment pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Il raconte très précisément comment est-ce que l'initiation a commencé. Et le chaman, au bout de 2 ou 3 jours ou une semaine, je ne sais plus, peu importe, il était dans sa propre maison, la maison du chaman, donc Carlos Castaneda. Non, mais, et le soir, sur le coup de 10 heures du soir, le chaman lui dit, Don Juan lui dit, bah, écoute, Carlos, je vais bien t'initier, mais seulement il faut que tu trouves ton lieu. Et c'est dit comme ça. Alors bien, quand je l'ai relu, quand j'ai repensé l'autre jour, bon, il faut que tu trouves ton lieu. Ah bon, débrouille-toi, je ne veux rien savoir, c'est à toi. Tant que tu n'auras pas une assise, tant que tu n'auras pas trouvé le lieu, l'endroit qui te correspond, ou là où il y a des bonnes ondes, alors là, effectivement, là, il peut y avoir aussi l'idée d'onde tellurique, ou je ne sais pas quoi, ce lieu précis et pas ailleurs, et bien tant que tu n'auras pas trouvé ton propre lieu dans cette maison ou autour de cette maison, je ne pourrai pas commencer l'enseignement. Et raconte Castaneda, donc de lui-même, toute la nuit, le malheureux va de chambre en chambre, de perron en perron, d'arrière cuisine, en pierre dehors, enfin oui sur le perron ou je sais pas quoi, ou sur une latte de plancher au premier ou deuxième, je sais pas où. Il n'en peut plus. 5 heures du matin, 6 heures du matin, il n'arrive pas à trouver son lieu. Enfin, il est mal, il est partout mal. Il n'est bien nulle part. Il n'est vraiment bien nulle part. Et le sortier lui avait dit, quand tu trouveras ton lieu, tu verras, ça va être la béatitude. Tu te sentiras vraiment bon. Et puis à 6 heures ou 7 heures du du matin, enfin, sur le perron, donc il faisait, mettons, je sais pas, 2,50 m, sur un coin du perron, une portion très précise, sur la droite ou sur la gauche, peu importe. Oh, Castaneda s'assoit là, et enfin, il a trouvé son lieu, et le, comment dire, l'initiation peut commencer, si vous voulez. Alors, quand j'ai relu ça, quand j'ai travaillé avec une autre collègue, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, sur ces lieux, que, ça, j'en parle pas du tout dans le livre, c'est on mène une réflexion plus globale, mais ça, on pourra en parler aussi avec d'autres, sur les lieux, dans un cadre bon, plus vaste, avec des ethnologues, etc. Et bon, c'est en chantier, peu importe. Donc, je ne suis pas du tout le seul. Voilà, donc, j'ai relu Castaneda, Magunas. Voilà. Donc, on a dit ensuite M. Alors, évidemment, M. Deux choses pour vous amuser. Enfin, vous amuser, non, vous n'avez pas que ça à faire, mais bon, bref, M. Alors, je vous propose Margeride, parce que, voilà, la Margeride, ça fait 45 ans. Christian Henry, venons, je vais me rajeunir un petit coup, là. Oui, 35 ans, enfin, on va tricher, enfin, peu importe. Bref, pratiquement toute ma carrière a été fondée sur la Margeride, et je suis tellement amoureux de cette Margeride que je continue à y aller. Alors, je tourne un peu, Margeride cantalienne, lozérienne, Haute-Loire, enfin, en gros, ou la Haute-Ardèche, de temps en temps, enfin, quand même, on n'est pas très loin. Et donc, la Margeride, moi, je l'ai dans la. Voilà. Et donc, elle est un peu dans le livre aussi, et c'est un peu mon lieu. Au sens, alors là c'est un autre sens aussi, hein. Lieu, parce que y a, là aussi j'ai pas eu le temps tout à l'heure de dire, mais lieu, il y a bon, le sens local, où on dit également c'est son lieu de manière métaphorique, si vous voulez, le lieu du pouvoir, ou alors on fait un lieu, alors c'est son lieu, enfin c'est quelque chose de, voilà, alors ça c'est, voilà. Et puis alors je vous ai préparé en M, évidemment vous allez pas comprendre, vous allez dire il devient fou, rassurez-vous, je ne deviens pas fou, la Moldavie, pourquoi la Moldavie, pourquoi la Moldavie, pourquoi la Moldavie, pourquoi la Moldavie, que quelqu'un qui a une idée lève le doigt, non mais moi non plus je sais pas, enfin je sais, je vais savoir, la Moldavie c'est très simple, parce que c'est un petit pays minuscule, 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 minuscule de chez minuscule. Capitale, rassurez-vous, je sais depuis 3 jours, Chisinau, voilà. 1 million d'habitants quand même, Chisinau, ou Chisinov, si on prononce, comment, non pas à la roumaine, mais à la russe. 3 millions d'habitants, comment dire, coincés entre la Roumanie, l'Ukraine et la Transnistrie, encore plus petit que la Moldavie. Et donc, dès qu'il y a un petit lieu, plus les lieux sont petits, plus je pense qu'ils sont intéressants parce que, non, pas tellement parce que personne ne va les voir, et donc c'est que vous allez être les premiers, non, parce qu'ils ont besoin de nous d'une certaine manière. Et en fait, vous allez dire, bon, Martin, oui, mais ça ne va pas du tout. Vous faites dans le pathos, vous le faites dans la morale. Non, pas tant que ça. On parlait tout à l'heure des petites gares et compagnie. C'est-à-dire que le petit mérite attention. Et comment dire, c'est pas de la morale ce que je dis. C'est-à-dire que, ethnologiquement, bon, il y a des gens, par exemple, des collègues, de manière plus théorique, qui font l'éloge du détail, Albert Piet, qui font l'éloge du détail. C'est encore autre chose, c'est méthodologique. Mais méthodologiquement, je pense que le petit peut parfaitement, mérite attention autant que le grand. Voilà. Et puis, en tant que tel, le, comment dire, mérite attention. Ça peut avoir autant d'intérêt, on va dire, culturel, ethnologique, etc. Et également, je pense que, comme les hauts lieux de proximité, il faut d'une certaine manière un peu les sauver, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Et quand je parlais d'Issanlas tout à l'heure, alors évidemment, vous allez dire... Fais une parenthèse éventuellement. Je parlais d'Issanlas tout à l'heure. Alors vous allez dire, il est fou. Non, il n'est pas fou du tout. Il est personnel. Donc on est un peu hors sujet. Pas du tout en fait. Pourquoi j'ai parlé d'Issanlas? Parce que c'est complètement bête. Alors vous allez dire, vous allez pleurer, etc. Vous allez, Martin, tu en fais trop, tu fais ton canet de toi. Tant pis, j'y vais. Tant pis, ça fait rien. Voilà, j'y vais quand même. Tant pis, j'y vais. Voilà, Issanlas. Il se trouve que. Mais on s'en fiche, à la limite. Oublions que c'est moi. Il y a 25 ans, tout d'un coup, je passais à Issanlas, ou du moins à 3 km d'Issanlas. Je mangeais mon petit saucisson comme un bon ethnologue qui n'a pas d'argent pour aller au bistrot. Les sandwichs sont tellement mauvais, il vaut mieux voilà, saucisson, comment dire, un coup de vitelle et une banane. Et puis, c'était en avril, c'est très très bien, encore un tout petit peu de neige, un temps très frais, mais un ciel absolument dégagé. Et pendant que je mangeais, tout d'un coup, j'ai découvert, comme ça, je connaissais pas Issanlas, que rien de particulier, sauf que c'est un joli plateau sans plus. Et à ce moment-là, les 12 coups de midi ont sonné. Et tout d'un coup, j'ai une espèce d'intuition ridicule. Kenneth White, je veux bien, j'assume. Je me suis dit, tout bêtement, je me rappelle encore 25 ans après, je veux sauver ce moment-là. Ben, je le sauve parce qu'on est là. Alors vous me dites, pourquoi voulez-vous le sauver? On s'en fiche, parce que là, je ne parle pas de gens, je parle d'une impression, d'une émotion. Ça ne fait rien. Mais je veux dire que pourquoi pas, finalement, décider que dans la vie, il n'y a pas que les moments forts, officiels, avec lesquels on vous matraque, mais vive les matraques, c'est pas ça. Je veux dire, les moments les plus importants, on est bien d'accord. Collectivement, ceux qui se partagent, parce que Issanlas, je peux le partager avec vous, parce que c'est vous, parce que c'est moi. C'est clair qu'on s'en fiche, en gros, d'Issanlas. Mais ça ne fait rien, je pense que... Si on réfléchit bien, pas la vertu, je veux dire, mais une petite morale ou une fable, c'est que finalement, pour un ethnologue en tout cas, je veux dire que il n'y a pas de petits événements. L'ennui d'ailleurs d'être dans les fermes, l'ennui, c'est pas uniquement la parole qui compte, c'est également le silence des gens, l'ennui des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est là, je parle boulot, je veux dire, si on est ethnologue, alors, bien entendu, s'il n'y a que des silences, bon, ça va plus, je veux dire, mais que si on veut retrouver une ambiance culturelle, une ambiance régionale, une ambiance paysanne ou parue, ou pas paysanne ou rurale, enfin, ou urbaine éventuellement, bien sûr, eh bien, je veux dire que la vie tout court, elle est faite de ces petits moments, de ces petits instants. Alors là, je suis d'accord, je l'ai volé, ou du moins j'ai voulu l'éterniser pour moi-même, donc vous en foutez, enfin, je veux dire qu'on s'en fiche, je veux dire, mais en même temps, moi j'en fais ce que je veux, je vous la communique, donc voilà, donc ça existe encore, voilà, donc voilà, d'accord. Alors N, mais promis, tu me diras qu'il n'y aura plus que 10 minutes. N.
Pas si je dois te sauver en te disant. Ah non,
parce qu'il y a une lecture à faire.
Dois les...
Ah, ça, c'est. Il faut demander à Richard, il faut demander. Moi, je fais ce qu'on veut. Non, mais tu me dis, voilà, parce qu'il faut qu'il y ait la discussion. Non, mais je peux aller très vite avec les autres. N, non, mais voilà, on va dire que c'est fini en gros. J'en suis à N, tant pis. Hein. Je vous avais proposé la neige, pas le temps. Je vous avais proposé quelque chose d'autre, pas le temps non plus. À O, je vous avais proposé ordinaire. Voir Michel de Certeau, pour les lieux, là aussi, lieu ordinaire, au lieu, donc c'est, comment dire, c'est pas un clivage, enfin, je trouve pas le mot, mais pas un clivage, mais un balancement, enfin bref, un chiasme, enfin je sais pas, bref, important, ordinaire, ou au contraire, lieu reconnu, etc. AP, alors rien que ça, je vous avais préparé tellement de choses, mes pauvres enfants, je veux dire, paysage, on a pas le temps, d'accord, mais tant pis, gardez, dire, ça constelle autour du lieu, c'est des radicelles, si on peut dire. Je voulais vous parler de peur, mais on a déjà parlé de la peur, ça, je reconnais que la peur m'intéresse beaucoup, mais on a déjà eu de la peur tout à l'heure. On a déjà eu de la peur, voilà. Paul, oui, vous avez bien compris, page 67, c'est l'arpenteur, c'est moi, donc voilà, Paul, d'accord, page 67, voilà. Alors, quand même, fondamental, mais oui, j'avais quand même dit que j'allais vous le lire, Georges Perec. Alors, Georges Perec, essentiel sur les lieux, il a écrit un livre qui est indépassable, enfin, je pense que c'est pas mes chers collègues qui vont me... Enfin, oui, dans son genre, Espèce d'espace, petit livre, pas très cher, édition Galilée. Espèce d'espace, c'est pas que tout est dit, je veux dire, mais une phénoménologie du rapport de nous à l'espace, c'est indépassable. Enfin, je vais vous lire donc 5 lignes de Georges Perec. Là, on est en plein dans le sujet, c'est pas du tout du hors sujet, c'est plus il s'en lasse. Hein. Alors, donc Georges Perec, espèce d'espace à la fin, je crois. J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. De tels lieux n'existent pas. Et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être une évidence, cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié. L'espace est un doute, c'est pas beau ça, l'espace est un doute, deux points, il me faut sans cesse le marquer, le désigner, il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné, il faut que j'en fasse la conquête. Pas mal quand même, hein. Bon, ça c'est la classe, ça. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant aussi parce que de même qu'il y a le balancement entre le petit, l'ordinaire et le grand lieu, etc. Là, c'est encore autre chose. C'est comment dire, on l'a ou on l'a pas, il nous fuit, il se cache. Est-ce qu'on difficile, pas difficile. Enfin, c'est une autre thématique, on va dire quoi. Et puis toujours dans le P, petit. Alors vous allez me dire, arrêtez avec votre petit. Il faut bien parler de quelque chose. Moi, c'est le petit qui m'intéresse. C'est peut-être nul, je reconnais, il faut peut-être parler du grand. D'autres gens vont parler du grand, mais bon, bref, petit, c'est le... Alors, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, avec d'autres, bien entendu, dans le lieu, entre autres, tout terme est de toute façon foisonnant, paysage, territoire, il y a d'autres mots liés à le terroir également, parce que c'est, bon, enfin bref, montagne également, à chaque fois c'est extrêmement riche, mais lieu, c'est comment dire, il y a quelque chose de paradoxal, voilà. Et ce qui m'a intéressé, entre autres, et je ne suis pas le seul, virgule, c'est que le lieu, entre autres, à la fois, comment dire, et tout peut être minuscule, tout petit, je vais vous donner l'exemple tout de suite, minuscule, tout petit, un point. Et justement, parce qu'il est point, il est minuscule et extrêmement circonscrit, il dit énormément de choses, si vous voulez. Donc, je n'ai pas le mot en linguistique, il doit y avoir quelque chose. Enfin, dire beaucoup avec peu. Enfin, je ne sais pas, il y a un terme, je ne sais plus en linguistique. Enfin, je ne trouve pas. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Dire beaucoup, ce n'est pas la synecdote. Enfin, dire beaucoup avec peu, si vous voulez, avec peu de moyens. Et donc, je trouvais intéressant de prendre une notion, un concept, une notion, on va dire, qui, enfin, du moins un élément de l'espace qui cristallise, qui polarise, qui est bourré de sens. Pour le dire à gros traits, parce que là, il y a aussi les bouquins des bouquins sur, comment dire, espace sur le Jeanne Coquelin, bon, et d'autres, Georges Bertrand, et plein d'autres. Je veux dire que, bon, un paysage, admettons les Cévennes, un paysage, bon, comment dire, Toute vallée Cévenole n'est pas équivalente à une vallée Cévenole, mais le sens des Cévennes, évidemment qu'il est, il est local, mais les Cévennes définies en tant que paysage, le sens des Cévennes, géographique, culturel, historique, se répartit sur des kilomètres carrés, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est extrêmement dilué. C'est riche, mais c'est à une autre échelle, alors qu'à une échelle grande, au contraire, à une petite échelle du lieu, je vous en prends un exemple immédiatement, eh bien, un lieu donne autant d'informations, pas que toutes les Cévennes, mais un lieu très précis des Cévennes, un col dans les Cévennes, ne dira non pas autant de choses que l'ensemble du paysage Cévennes, mais dira énormément de choses, et donc c'est condensé, donc cette richesse, cette force. Alors je vais prendre un exemple immédiatement, voilà, c'est, comment dire, c'est le col en montagne, c'est merveilleux, c'est un point. Mais un col, c'est quoi ? Mais c'est inimaginable, ça fait communiquer, alors, deux versants, deux montagnes, éventuellement, si c'est des grandes montagnes, c'est versant méditerranéen, versant montagnard, c'est éventuellement la pente de l'Olivier en Ardèche, il y a des pentes comme ça, ou dans les Alpes du Sud, d'un côté, en Ardèche, c'est pareil, il y a des cols aussi, ou d'un côté châtaignier, de l'autre des pins, ou des sapins, etc. Donc c'est deux mondes, et donc ça fait communiquer. Voilà. Autre chose également, par exemple, les tunnels, les ponts. Les ponts, c'est un lieu, c'est extraordinaire, un pont. Alors voilà également, comme les cairns, voilà des lieux qui non seulement sont très riches de sang parce qu'ils font communiquer, enfin du moins ils sont riches de l'un et de l'un et l'autre part du point sur lequel ils sont, mais en plus ils font communiquer donc des gens puisqu'ils passent le pont, etc. Et de même, rappelons-nous quand on est petit ou même grand, la fameuse ligne de partage des eaux. Ça vous a jamais fasciné ça quand on a 12 ans et demi? C'est fascinant. Oh, ligne de partage des eaux. D'un côté, la Méditerranée, donc les oliviers, ça vous fait rire, mais les oliviers, vous êtes d'accord quand même, les oliviers, etc. De l'autre, ah, la Loire, donc l'imaginaire de la Loire, c'est extraordinaire. Alors là, on n'est pas dans le géographique, on est dans le sur-géographique, dans le méta-géographique, parce que c'est l'imaginaire de notre carte de France, de notre représentation du sud de la France, du nord, de la Loire, etc. Donc quand on est enfant, c'est la ligne de partage des eaux, c'est prodigieux, je veux dire, c'est quelque chose. Alors voilà un lieu, ben, je trouve, bon, c'est alors pratiquement, bientôt ça va être à Jocelyne. Alors S, alors QR, curieusement, je bloque. Alors si vous avez, bon, moi je suis preneur, je sais pas, j'ai pas inspiré. Alors Q, réfléchissez, voilà. Alors S, secondaire comme les lignes, je reconnais que c'est facile. Oui, j'avais prévu le seuil, la notion de seuil. Bon, avec Cassagnoda, on a vu aussi que le seuil, ce qui fait passer, il y a des tas de gens aussi qui réfléchissent sur la notion de passage, le lieu. Alors là, on n'est pas dans le lieu, mais le lieu comme, parce que là aussi, il y a plusieurs manières de voir le lieu. C'est soit on le voit plutôt comme, je vous surmène, moi aussi je me surmène, soit on voit, c'est une autre, une troisième déclinaison, soit on voit le lieu en tant que tel, comme, comment dire, ayant énormément de sens, mais pour lui-même, mais qui ne communique pas, voilà. Donc c'est justement le corps qu'on enterre, le corps propre. Donc là, c'est le lieu, mais au sens pas égocentrique, mais au sens individualisant, si vous voulez, voyez, identitaire, personnel, individuel. Et puis, des lieux qui peuvent être, comment dire, pas plus grands non plus, mais qui, comme on l'a vu tout à l'heure avec les cairns, et là maintenant avec le col, le lieu partage des eaux, qui justement font communiquer, si vous voulez. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent, alors là, c'est un peu un autre débat, mais tant pis, je le dis quand même, il y a des gens qui, des chercheurs, des collègues, des chercheurs, qui disent, oui, mais les lieux, tu comprends, ça va pas, parce que c'est individualiste, c'est un peu chacun pour soi, c'est le lieu, c'est l'investissement un peu à la Kenneth White, etc. Alors que réfléchir, là c'est un autre débat, enfin pas un autre débat, on est en plein dedans, mais c'est plus universitaire. Alors que réfléchir à l'espace en termes de territoire ou de paysage, eh bien c'est plus social, c'est plus sociétal, c'est plus, ça met plus en œuvre les relations sociales, les rapports sociaux de force, les conflits, etc., les conflits de bornage, de territoire, etc. Alors que la notion de lieu, c'est vrai, elle est un peu ramassée, et donc a priori elle est moins porteuse de social, pour le dire à gros traits, ou de relations sociales. Mais un certain nombre d'exemples que je vous ai donnés montrent qu'il ne faut pas être radical non plus. Que, voilà. Alors, oui, je vous avais prévu, ça je vous le dis pas, Sainte-Eulalie, tant pis pour vous, je dirais pas. Là, à S, je suis obligé, doublement obligé, triplement obligé de le dire, bien entendu à S, mais quand même, à Montpellier, quand même, Pierre Sansot, quand même. Mais oui, je vois Christian commencer à lever les sourcils, évidemment, Pierre Sansot quand même. Donc bon, là, je n'en parle même pas, éloge de la lenteur et autres, et les gens de peu, et quand même sur les pique-niques aussi comme lieu, enfin bref, donc quand même, pensons une petite pensée pour ceux qui le connaissent ou qui ne connaissent pas, pour ce grand maître, enfin, j'aime pas ce mot, enfin ce collègue philosophe et ethnologue de Montpellier d'il y a quelques années. T, je vous ai prévu territoire, mais on en a vaguement parlé plutôt dans une discussion, etc. T, alors rien que ça, je vous ai préparé le temps, mais alors Bon, bonjour, on en a parlé tout à l'heure avec l'événement, vous vous rappelez, enfin l'événement, etc. Voilà, U, je vous ai préparé Utopie, mais je n'ai pas vraiment révisé, donc, bon, Utopie, voilà, parce que Utopie, ah, bon, parce que le mot lieu, comment dire, le mot lui-même, locus, comment dire, Utopie, c'est les topiques des psychanalystes, c'est également les lois topologiques, voilà, donc il y a aussi le mot grec, enfin, voilà. U, quand même, je ne peux pas m'empêcher quand même de vous signaler quelqu'un qui travaille beaucoup sur les lieux, c'est Jean-Didier Urbain, qui est un historien et un sociologue, qui a écrit sur la plage, qui a écrit sur des lieux précis sur les plages, de manière plus générique, il n'a pas fait d'enquête vraiment de terrain, quoique, également un très très joli livre sur l'idiot du voyage, et dont je vois que vous connaissez, et donc sur l'imaginaire des lieux, justement, campagne, etc. Alors on n'est plus complètement dans les lieux, mais il s'y inscrit en fait. V, voyage, bon, on passe. W, l'autre jour, un collègue m'a dit, ah, Martin, tu sais pas pour W, bah, tu vas leur sortir, Weg, en allemand, ça veut dire chemin. Bon, c'est vrai ou pas? Oui, je crois que c'est vrai, donc Weg, voilà, donc voilà. X, tant pis pour vous, comme j'étais, tant pis, petite région, là aussi je roule pour les petites régions, mais pas parce qu'elles sont petites, c'est pas du régionalisme du tout, vous avez bien compris, la Moldavie, voire la Moldavie, la Xintrie, là, ça flotte un maximum dans les rangs, ça forcément, la Xintrie, bon, la Xintrie, c'est une toute petite région coincée entre le Cantal et le Lot, et autour de pas d'Argenton, autour de, bon, ça ne me revient pas, mais je vous rappelle que la Xintrie existe.
C'était le bistrot des ethnologues. Plus de renseignements sur ethnobistrot.fr ou sur divergence-fm.org. Le bistrot des ethnologues, prise de son, Eliel Kaïm, montage Bruno Bertrand pour Divergence FM.